bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Sport, votre émission sportive de Radio G. On est ensemble pendant près d'une heure pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Très heureux de vous retrouver pour une émission particulière. Alors, on n'aura pas trop d'actu locale, c'est assez calme en ce moment, puisque voilà, c'est la fin de saison, c'est le début de l'été. D'ailleurs, il fait actuellement très très chaud dans les studios. Et donc, l'équipe est au complet. Max est à la régie aujourd'hui. Salut Max.
Bonsoir Alex et bonsoir à tous les auditeurs de Radio G.
Pas trop chaud, ça va?
Un petit peu, étant donné que je suis à côté de tous les ordi et tout ce qui fait du chaud. Mais ça va le faire, ça va le faire.
Cédric est aussi là. Salut Cédric.
Salut tout le monde, je suis en train de te monter une clim, t'inquiète.
C'est gentil.
Je vois que tu t'es préparé, t'as même une gourde.
Non mais il faut. Enfin, ça sera encore pire demain. Donc.
Oui, mais effectivement,
c'est pas. Disons, pensez à s'hydrater maximum.
C'est pas un temps à faire du sport, j'ai envie de dire, mais bon.
Si, de la piscine.
De la piscine, c'est vrai. Vraiment trop bien. Ça, bon,
c'est le seul moment de l'année où il faut aller à la piscine.
C'est vraiment très conseillé même. Faustin est également avec nous. Comment ça va?
Ça va très bien, chaud comme tout le monde, mais j'ai pris ma bouteille pour survivre.
Effectivement, c'est pratique. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui?
J'ai parlé de basket une fois de plus, pas de NBA, mais de Betclic Elite, et notamment des playoffs.
Ça marche, eh bien, on suivra ça dans la suite de l'émission. On va commencer par, pour le sommaire, on va commencer par les résultats internationaux, avec tout ce qui s'est passé en rugby, en balle et aussi en football. On enchaînera après sur un débat, puisque Cédric est allé à la conférence de presse de l'UFAB vendredi dernier sur le projet sportif du club pour l'année prochaine. Donc on pourra en parler longuement. Et puis après, on enchaînera sur les débats des générations d'or. Voilà, les votes ont été lancés hier. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà voté.
C'est déjà un franc succès, en tout cas en moins de 24 heures.
Effectivement, en moins de 24 heures, on a plus de 60 votes. C'est assez incroyable. Donc merci à tous ceux qui ont voté, et continuez. Pour ceux qui n'ont pas encore voté, continuez à voter. Rendez-vous sur les sites, plutôt les réseaux sociaux de Génération Sport, Instagram, Twitter et Facebook, pour voter, pour élire les meilleurs sportifs et sportives angevins. Voilà, c'est l'occasion de célébrer cette très belle année angevine au niveau du sport. Et puis voilà, donc on aura l'occasion dans les semaines à venir de débattre des différentes catégories et de présenter un peu ce que chacun a fait au cours de cette saison. Et notamment, donc on va commencer ce soir avec un premier débat sur la catégorie du meilleur sportif masculin et de la meilleure sportive féminine. Donc voilà, on suivra ça, on s'intéressera à ça dans la fin d'émission. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à aller voter.
Et puis à partager aussi.
Et à partager, on a eu déjà des bons relais. On a eu Robin Gabory des Ducs d'Angers qui a relayé. On a le club de l'UFAB. On a eu Alexis Peterson de l'UFAB. Donc ça fait chaud au cœur de voir que notre projet prend bien forme. Donc ça fait plaisir. Et donc on vous prépare une très belle émission le 5 juillet 2022. Comme on dit, save the date. Et du coup, on compte sur vous pour être là donc le 5 juillet lors de la remise des trophées. Sans plus tarder, on va commencer par l'actualité internationale. Et Max, tu vas commencer avec le football, je crois.
Oui, puisqu'on avait parlé déjà du niveau de l'équipe de France lors de la dernière émission, et moi je disais que c'était un niveau un petit peu alarmant. Et depuis, il y a eu deux autres matchs et l'équipe de France a pu nous prouver une fois de plus qu'il n'avait pas tout à fait le niveau pour le moment pour entamer cette prochaine Coupe du Monde qui arrive. Les Bleus ont d'abord affronté l'Autriche, c'était vendredi dernier, et les Français ont fait un match nul un partout face aux Autrichiens. Et hier, la France a été battue par la Croatie au Stade de France, victoire des Croates 1-0. Donc est-ce que votre regard, messieurs, a changé par rapport à la semaine dernière? Est-ce que le niveau de l'équipe de France vous inquiète un peu plus qu'il y a une semaine?
Forcément un peu plus. Il n'y en a pas de victoire en 4 matchs. C'est quand même inquiétant quand on est champion du monde. C'est forcément alarmant. Effectivement, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a la fatigue des joueurs, il y a effectivement l'accumulation des matchs. On a eu des bonnes équipes. Même l'Autriche, on a eu un très très bon gardien. Un gardien qui sort sûrement l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Donc il y a des faits de jeu qui ont fait que. Après, effectivement, dans dans la production du jeu. L'équipe de France a été trop peu présente. Il y a eu des changements de système qui n'ont pas été payants, qui ont un peu déséquilibré l'équipe. Donc, je pense toujours que l'équipe est en rodage, mais effectivement, ça reste quand même inquiétant et ça montre que le travail à faire est plus important que prévu, je pense.
Ouais, moi j'ai l'impression de voir le Deschamps des dernières années sur, à Marseille.
Ah ouais ?
Qui est limite en roue libre. Je sais pas, en cas de sortie en Coupe du Monde, je serais pas surpris qu'il nous fasse une Deschamps qui quitte comme ça du jour au lendemain.
Oui, je pense aussi que.
Ses choix, ils sont de plus en plus incompréhensibles. Mmh. Les joueurs qu'il prend.
Il les fait pas jouer.
Il les fait pas jouer. Alors, ok, faut faire fonctionner le groupe. Il y a eu des blessés, nanana. Mais à un moment, Griezmann, on sait qu'il n'est pas forcément en très grande forme. On le fait jouer une fois, deux fois. Après, on le met sur le banc de touche. Je ne sais pas si c'est réellement la meilleure solution pour lui redonner de la confiance. Sur les gardiens, bon, il y a un peu de mieux parce qu'il y a eu des turnovers. Forcément, il faut bien qu'il apprenne. Hein, quand tu es face à Loris, qui est quasiment indétrônable, et encore ça maintenant, c'est discutable, tu es obligé d'apprendre comme ça de temps en temps sur quelques matchs. Moi, je pense que Maignan a quand même un niveau dessus. Mais pareil, va falloir lui laisser un peu de temps. J'ai pas l'impression que sur les buts qu'on se prend, bon, hier encore c'est différent parce que c'est un penalty. Je pense pas qu'il est si coupable que ça. Enfin, je pense pas qu'il fait des si mauvais matchs que ça. Après, j'ai pas regardé vraiment à
fond le match, mais. Il a pris deux buts, c'est des buts sur penalty. Mmh. Et il le touche hier contre Modric.
Ouais.
Et sinon, gros match contre. Les deux matchs contre la Croatie, il était là. Donc, et deux gros matchs. Hein. Apparemment, ouais, il avait été incroyable. Pareil, j'ai pas pu tout voir en entier. Mais le peu que j'ai vu, effectivement, il avait été plutôt convaincant.
C'est pour ça. Qu'on essaye au moins voir du positif. Je pense que voilà, pour lui, en tout cas, ça va l'aider à franchir un cap.
Il y a des joueurs qui ont pu se démarquer. Il y a Nkunku aussi qui a fait un très bon rassemblement avec deux passes D sur les trois buts des Bleus. Donc, moi, j'ai trouvé très intéressant. Ah. Et puis après, sinon, en grand gagnant, c'est vrai qu'il y a peu de monde à sortir vraiment du lot, puisque effectivement, donc l'équipe de France part sans réel résultat. Donc, dans le côté décisif, il a peut-être manqué un peu ça.
Et puis même l'attaque, il n'y a pas eu d'attaque sur ce.
Ça a été compliqué parce que voilà, il y a eu des blessures, il y a eu de la fatigue, il y a eu tout ça, et il y a peut-être une mauvaise entente. Il y a Griezmann qui lui, pour le coup, sort peut-être le grand perdant. Quand on sait que Nkunku peut jouer en 10 à sa place, c'est aussi quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte.
Moi, je trouve que ça ressemble vachement à une fin de cycle. Je trouve que ce système-là s'essouffle et je pense que c'est la dernière compétition de Lloris, notamment de Deschamps aussi. Je le vois pas continuer avec l'équipe de France, même si on gagne la Coupe du Monde, je le vois pas continuer. Donc je pense qu'il y aura énormément de changements et surtout moi le point qui me fait le plus peur, c'est pas tant les résultats, c'est le niveau affiché. Ça fait très longtemps que j'ai vu une équipe de France aussi faible dans le jeu,
ouais.
Alors que Dieu sait qu'on a des super joueurs, mais c'est très très compliqué. Ouais. Même quand on met les meilleurs joueurs qu'on a, c'est vraiment laborieux. Toi, Faustin, est-ce que t'as vu les matchs et qu'est-ce que t'en as pensé globalement?
Ouais, j'ai vu la fin du match contre la Croatie. Bah, c'est vrai que le fait qu'ils marquent dès le début, la Croatie, ça les fait jouer beaucoup plus défensif. Ils ont vraiment pas beaucoup attaqué le reste du match. Et ça nous a fait, ça nous a fait perdre notre confiance, peut-être à pas réussir à pénétrer cette défense où ils étaient 11 derrière. Mais après, c'est pas normal parce qu'on a quand même des joueurs de très très grande, très très gros, très très grand prestige et on devrait marquer des buts quoi, genre mettre 0 but contre la Croatie, on met qu'un seul contre l'Autriche et c'est pareil, c'était 0 contre, je sais plus c'était contre qui, c'était le deuxième match.
Bah, Croatie a 1-1 au premier. Donc, c'est le seul match du rassemblement où on met 0 but.
Mais
oui, quoi qu'il arrive, offensivement, c'est trop faible par rapport à l'écurie qu'on a offensivement. Quoi.
Bien sûr.
Ouais. Après, hier, il y a eu aussi l'arbitrage qui a été un peu discutable.
Ouais, apparemment. Ouais,
apparemment. Donc,
ouais, mais l'arbitrage, si tu gagnes le match à la régulière, l'arbitrage.
Ouais, bien sûr. Voilà. Apparemment, le pénalty, il n'y a pas pénalty du tout, tu vois. Donc, déjà, rien que ça.
Ouais, mais après, comme le disait Faustin, ils ont marqué très tôt. La France avait quand même 85 minutes pour revenir au score.
Ouais,
c'est pas une décision arbitrale qui va changer le.
Derrière, t'as le même type d'action qui est pas sifflé.
Ouais.
Et ça, dans la tête, forcément, tu vois, ça reste, quoi.
Ouais, après
le niveau, si on regarde bien, même en Europe, il est.
Ah oui, non, mais c'est pas que l'équipe de France.
Donc voilà, ouais, c'est pour ça.
L'Angleterre est comme nous. Hein.
Le match,
il joue ce soir, mais.
Le match Italie-Angleterre, fallait se le coltiner. Ouais, ouais. Vraiment, c'était pas du
coup. Ce soir, je crois qu'il y a un Italie-Allemagne.
Ouais, et pareil, l'Italie-Allemagne de l'Allée.
L'Italie bis, apparemment, c'est une équipe super jeune. Fin...
Et ouais, l'Angleterre est comme nous, à 2 points, et peut être relégué en Ligue B. Et effectivement, l'Angleterre produit rien. L'Italie. L'Italie s'en sort très difficilement face aux autres équipes. Et non, mais c'est vrai que de toute façon, on l'a dit, hein, mais toutes les équipes sont essoufflées, en peuvent plus. On est vraiment mi-juin, quoi. Une saison qui a commencé pour certains
et puis
en juillet-août.
Et surtout que les joueurs ne. Ils s'en foutent de la Ligue des Nations, hein, très
oui,
clairement.
Voilà. En même temps,
une compétition qui a été organisée.
Cette coupe-là, hein.
Oui, oui, bah, clairement.
C'est juste
quand on l'a gagné, on s'y intéressait.
Mais... Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait,
c'est ça. Le seul moment intéressant dans cette compétition, c'est le Final Four. Et pour la Coupe de France, c'est râpé pour cette saison.
Ouais. Bon, de toute façon, on aura le temps dans les autres émissions de parler foot avec la Coupe du Monde qui arrive.
Ça va rentrer l'argent. Ça, c'est sûr pour l'UEFA.
Il y a des chances.
On va enchaîner avec des news du rugby. C'était les barrages du top 14 pour accéder aux demi-finales de la compétition. Et Toulouse recevait La Rochelle dans ce remake de la finale de Champions Cup 2020-2021. Et donc Toulouse s'est imposé à domicile, donc 33-28, grâce à un énorme Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, qui a encore brillé lors de ce barrage. Et puis Bordeaux-Bègles s'est imposé à domicile également, 36-16, un peu plus facilement face au Racing 92. Et donc Bordeaux qui rejoint donc Montpellier en demi-finale. Quant à Toulouse, ce sera un match contre Castres qui a terminé donc leader de la phase régulière. Ce match du coup entre Castres et Toulouse se jouera 20 à 21h donc vendredi prochain. Et pour l'autre demi-finale, ce sera 21h donc du côté de Montpellier. Donc Montpellier, ça, et le samedi 18, donc juste le lendemain.
Vous êtes costaud là pour Toulouse.
Castres, c'est une bonne équipe cette saison. Pas trop suivi, mais c'est vrai que Toulouse fait forcément une moins bonne saison que l'année dernière.
Oui,
vous étiez sur le toit du monde.
Doublé, mais...
Ils avaient fait une énorme saison. De toute façon, l'année dernière, c'était difficile de faire mieux. Et effectivement, donc il y a cette demi-finale qui se profile. Tu vois Castres passer, toi?
Ouais, je pense. Hein. Toulouse, cette année, c'est quand même un petit peu compliqué. Ils ont quand même laissé pas mal d'énergie dans la Coupe d'Europe. Puis, ouais. Ouais, je pense que cette année, c'est pas. S'ils passent. Même aller en finale derrière, je pense que ça sera difficile. Hein.
Ouais. Surtout qu'après, justement, ouais, Montpellier et Bordeaux ont fait des grosses saisons.
Voilà, ouais.
Montpellier, je pense, reste favori.
Ils sont sur une bonne dynamique.
Ouais, je pense que Montpellier est favori de cette fin de championnat. Max, des news avant peut-être d'enchaîner sur le handball.
On peut parler du basket avec la finale NBA. Il me semble que le match 5 c'était cette nuit et victoire des Golden State Warriors 104-94 face aux Celtics de Boston 3-2 donc dans cette finale entre ces deux équipes. Faustin, alors est-ce que tu as vu le match là? Les horaires sont complètement différents.
Notre expert NBA. J'ai quand même vu la première mi-temps. Après, je suis parti me coucher.
Oui, parce qu'il est tard, il faut aller au lit.
Il y a école.
Justement, non, les cours sont finis pour moi.
Ah oui, c'est vrai, t'es en seconde, donc
on est complètement déconnecté.
C'est non, mais c'est
des années qu'on y est.
Normalement, la seconde, c'est l'été où t'as rien à faire, ouais. Donc tu dois kiffer.
Tout à fait. Là, je vais regarder tous les matchs, ça va être parfait. Mais ouais, dans ce match, quand même, les Golden State ont bien dominé. Ils étaient à domicile, donc ça joue forcément. Et ils ont fait tomber la stat que les Celtics n'ont jamais perdu 2 matchs d'affilée. Là, c'est dans ces playoffs, c'est la première fois qu'ils perdent 2 matchs d'affilée. Et maintenant, bah, ils sont en balle de match, quoi, pour terminer le travail à Boston. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, je pense que je regarderai aussi le match. Et à mon avis, j'aimerais bien voir un Game 7 et voir Boston s'en sortir, ce serait beau.
Ok, ouais. Donc tu vois pas les Golden State gagner le prochain match?
Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura un Game 7 et Game 7, j'ai du mal à savoir ce qui va se passer.
Ah ouais, même si les Warriors vont jouer à domicile?
Ouais, bah ils ont déjà. Les deux équipes ont gagné, ont fait 1-1 à domicile pour les deux premiers matchs.
Okay, oui.
Après, du coup, ils sont à 2-1, 2-1 pour Golden State. Mais ça va être ça, quoi qu'il en soit, c'est une très belle finale.
Donc ouais, on suivra ça de près dans les prochaines émissions. Tu nous feras un résumé vu que tu pourras voir les matchs. On enchaîne avec donc un petit mot de handball. Ce week-end, ça va être la finale, enfin les demi-finales et finales, le Final Four de Ligue des Champions de handball, avec donc Veszprém qui affronte Kiel samedi et Kiel, alors Veszprém qui affronte Kiel, c'est l'équipe polonaise, et Kiel, l'équipe allemande, qui affronte Barcelone dans la foulée, et le lendemain, donc finale entre les deux vainqueurs. Et ce week-end, c'était un week-end de Coupe de France, avec la victoire chez les hommes du Paris Saint-Germain 36-31 contre Nantes, donc à la Corotel Arena. Donc encore un trophée pour l'équipe parisienne, avec de nombreux adieux, avec des cadres qui quittent le club, comme notamment Vincent Gérard, Nedim Remili ou encore Mikael Hansen. Et donc voilà, c'était le dernier match sous les couleurs parisiennes pour toutes ces légendes du club. Et du côté des filles, c'est Metz qui a fait une saison vraiment remarquable, qui s'est imposée en finale contre Besançon. Et donc voilà, donc Metz qui, on peut le dire, a fait une très très grosse saison avec ce Final Four en Ligue des Champions et cette troisième place. Et surtout le titre champion de France obtenu contre Brest, donc avec le doublé en Coupe de France désormais. Voilà pour toute l'actualité internationale. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, messieurs? Il y a de la Formule 1, et victoire de Verstappen.
Ouais.
Grand Prix de Baku.
Un petit peu plus intéressant que d'habitude, mais pas exceptionnel. Par contre, grosse désillusion pour Ferrari.
Et c'est pas la première cette saison.
C'est surtout, ouais, enfin là, c'est une double casse mécanique,
oui, bien
apparemment.
Sûr, oui.
Et
Charles Leclerc
qui est en pôle, qui se fait dépasser, qui arrive à. Via un virtual safety car de faire une bonne tactique en changeant ses pneus, qui remontait bien, qui se retrouve en tête, et là le problème sur le moteur, apparemment problème d'hydraulique, et 2-3 tours avant, je crois, Sainz pareil, qui a un problème d'électrique au niveau des freins, il avait plus de freins, donc
ouais.
Les deux abandonnent quasiment coup sur coup. Petit coup au moral forcément pour puisque ça fait 3 grands prix d'affilée où
oui, y a
bah,
pas
ça
de
passe pas,
il n'y
a pas de podium, il n'y a pas de résultat.
Et Verstappen qui s'envole au classement.
En tout cas, qui prend une petite avance, après ça reste une avance, on va dire, au championnat légère.
Ouais.
Mais par contre, au niveau du championnat constructeur, là, oui, ça,
y a pas de doute, ouais, sur Red
ça
Bull.
Fait un petit peu plus pour Red Bull. Et de ce point de vue-là, ça risque d'être dur pour Ferrari. On n'est pas à l'abri que ça arrive aussi à.
Puis même Mercedes avec Hamilton qui n'est pas du tout dedans cette saison.
Ouais, encore Hamilton, apparemment aujourd'hui, il y a eu encore, peut-être un futur drama Hamilton.
Ouais.
C'est pas sûr.
Il avait mal au dos, apparemment.
C'est pas sûr qu'il serait là ce week-end au Canada.
Ok.
Ah, effectivement, je peux comprendre, j'ai problème de dos. Mais bon, on ne sait pas trop avec tout ce qui s'est passé cet été,
enfin
l'intersaison. Si réellement c'est dans la continuité de ça, après c'est vrai que sa voiture rebondit beaucoup, mais à côté de ça son coéquipier arrive à
faire de bonnes choses,
quand même s'en sortir.
George Russell, c'est ça,
Russell, voilà, qui est généralement dans le top 5 sur chaque Grand Prix, qui fait podium cette fois-ci, c'est un peu bizarre pour Mercedes, quoi.
Très bien.
Ouais, donc comme on le disait, Max Verstappen qui consolide avec cette cinquième victoire, donc sa place de leader. Et justement, quand on compare à Hamilton, qui donc les deux étaient au coude à coude la saison dernière, Hamilton il a 0 victoire, il a un seul podium pour l'instant.
Oui, et encore le podium.
Et encore.
Et donc, très chanceux.
Ouais, donc là c'était le GP de Bakou en Azerbaïdjan, et donc comme tu l'as dit Cédric, le prochain, donc dimanche prochain, ce sera au Canada.
On va revoir le fameux mur Welcome to Canada qui fait quelques frayeurs.
Un petit mot aussi d'actu local. Alors, on n'en a pas parlé effectivement parce que il y a plus trop de matchs. Mais en tout cas, il y a du mercato et c'est l'EAB qui se prépare à sa saison en Pro B avec deux nouvelles recrues qui ont été officialisées. On sait qu'il y a eu pas mal de départs et c'est Johan Choupa et Florian Léopold qui arrivent renforcer l'équipe angevine avec donc des signatures donc au poste 1 et 2 et au poste 5 et 4. Donc voilà, ça va être assez intéressant de voir les recrues. Et puis c'est vrai que les jeunes, c'est aussi ce qui a fait la force de l'EAB donc la saison dernière. Et donc voilà, on verra si l'EAB est capable de reconstruire une belle équipe autour de Ali Bouziane, le nouveau coach angevin.
Oui, et puis côté transfert, on va profiter pour parler du SCO qui a enregistré deux petites arrivées. D'abord, il y a le jeune attaquant de 21 ans, Amine Salama, qui s'est engagé jusqu'en 2026 avec le SCO, donc un jeune joueur qui nous vient de Dunkerque. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent.
Dunkerque. Il vient de Dunkerque, dans le sud. C'est vrai que.
Et également Yacine Belgdim, donc qui est un joueur de 20 ans qui était au centre de formation et qui a donc signé son premier contrat professionnel avec le SCO. Donc justement, ça rejoint ce qu'on se disait la dernière fois, c'est pourquoi pas se concentrer sur le centre de formation, sur les jeunes, pour pouvoir recréer un projet.
Et en attendant, peut-être plus de moyens.
Ouais, exactement. En parlant du SCO, en parlant de transfert, on peut déjà annoncer que Thomas Mangani, donc, qui a quitté le SCO, s'est engagé avec l'AC Ajaccio. Ajaccio qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle pour Mangani qui rebondit en première division une fois de plus.
Ce qu'on a su aussi cette semaine, c'est que le consulat américain apparemment était sur Angers pour faire. On ne sait pas trop si c'était pour signer
non,
ou faire
pas forcément, mais discuter.
Discuter et peut-être faire un audit du club.
C'est ça.
Donc ça avance tout doucement. J'ai envie de dire tant mieux, mais attention avec les Américains parce que. Quand on voit ce qui vient d'arriver à Bordeaux aujourd'hui, qui passe de la Ligue 1 à la Nationale d'un coup, c'est pas la première fois qu'il y a des soucis avec les investisseurs américains. Donc, je dirais à surveiller très très près quand même ce dossier.
On espère que les Américains ne vont pas faire la même chose que ce qu'ils ont fait dans d'autres clubs. On peut citer Bordeaux, c'est tombé tout à l'heure. Hein, Bordeaux qui est rétrogradé en National 1. Donc on espère que ce ne sera pas la même chose pour le SCO.
Et qui pourrait aussi investir dans Lyon.
Effectivement, ça c'est un autre club et ça ce sera des sommes astronomiques. On parle de 600 millions d'euros pour acheter le club, donc à voir pour la suite. Je propose de marquer une pause musicale et puis après on va revenir sur la conférence de presse de l'UFAB. Et on reviendra juste après.
Oui, et donc pour cette pause musicale, on va rester dans le thème du sport et du football. On va s'écouter le son Neymar Junior de Green Montana et de SDM. Et on se retrouve juste après.
Neymar, pas les mêmes rêves. Une trahison au bout de 100 mètres. Pas grave si la merde s'invite. Je suis ciel tout sur ma comète. Cœur noir, mais c'est quand même. Je suis toujours là où le mal s'engraine. Les gros, je tiens mes promesses. C'est de la force, bitch, si il t'en reste. Elle a raison, elle dit que je suis parano. Elle a son aucun respect pour ses fils de Joe. Ces salopes se ressentent, j'attendais la floraison. Ma vie, j'aime trop la drogue, elle pense rien avant la fellation. Salope, j'te fermerai la porte. Hier, j'te plains, toi t'es qu'un fils de ta sœur. J'ai mon destin et un Glock dans les mains. Pour moi, mon Chanel, Gucci, Fendi, Balmain. Fuck, ces chiens, putain, j'aime que les miens.
J'crois que j'arrive maintenant.
La money m'appelle, yeah. Fuck la position.
Gros, j'bouge jamais dans la raquette,
yeah. Dans la vente de H, j'vais devoir te battre ça pour mes liasses, yes, yeah. À Paris, j'porte le numéro 10 Neymar.
Comme tu ris, gros, j'bouge jamais dans la raquette, yeah. Fuck la position, j'suis derrière la tête. Pas d'avenir dans les mains, Glock 17, gros, j'surveille les miens. À Paris, j'porte le numéro 10 Neymar. À midi, on ouvre la rasée. J'ai rempli mon casier, tire pas sur un joint qui t'amène à l'asile. Paris c'est magique, 9 mm t'as sur mieux que la massive. J'ai des refs en cours et d'autres en cours d'assises. J'veux toujours un tas de trophées comme Zizou. Et gros si tu nous vises, faut pas nous rater. Coup franc, j'ai pris la position, j'fais sauter le mur, j'la mets à terre. Sur le terrain la bite, siffle la faute. Tu finis direct, t'arrives le. Un autre prend ta place dans le refou. Bah ouais c'est la thèse.
Hier j'te plains, toi t'es qu'un fils de danse. J'ai mon destin et un Glock dans les mains. Pour moi mon Chanel, Gucci, Fendi, Balmain.
pétasse, j'aime que les miens. Je crois que j'arrive maintenant. La monnaie m'appelle, yeah. Fuck la position.
Gros, je joue jamais dans la raquette,
yeah. Dans la vente de H, je dois te battre ça pour mes yes, yes. À Paris, je porte le numéro Disney Marie. Comme Curie, gros, je joue jamais dans la raquette. Fuck la position, claque la bouche, je tire la tête. Pas d'avenir dans les mains, le 17, gros, je surveille les miens. Tout, tout, à Paris, je porte le numéro Disney Marie.
De retour dans Génération Sport, votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur internet via le site www.radio-g.fr. On est de retour pour parler sport local et basket local avec l'UFAB, notre partenaire à l'année. Et donc c'est vrai que nous étions conviés à une conférence de presse, donc tu y es allé, une conférence de presse qui visait à présenter un peu le projet sportif de l'année prochaine, également un gros partenaire qui arrive également. Et donc bah voilà, je vais te laisser présenter un peu ce que tu as retenu de cette conférence de presse, puis après on va en débattre tous ensemble.
C'est ça, donc du coup en fait il y a eu vraiment trois grosses parties. Donc il y a eu un bilan sur la saison actuelle, enfin la saison qui vient de se terminer, sur des nouveaux accords aussi, notamment par rapport à la formation et aux collaborations qu'ils ont avec par exemple le lycée Chevrolier. Et donc ils vont avoir un deuxième lycée qui vont se greffer, j'ai plus le nom en tête. Ce qu'on peut noter, c'est que bah voilà, aussi bien dans l'équipe professionnelle, il y a eu des résultats, mais à côté aussi, il y a eu des bons résultats chez les espoirs. Elles finissent première du championnat, troisième du Big Four. Donc voilà, ça prouve que bah, il y a de la continuité et du sérieux voilà dans les équipes. Dans les projets, ce que j'ai noté, c'est que, alors, on en parle souvent ici, et j'ai été un petit peu étonné que pour un club comme ça qui a de la visibilité, pour l'UFAB amateur, ils n'avaient pas forcément de salle fixe. Et okay. À partir de la saison prochaine, ils auront une salle fixe.
Donc à mon plaisir.
Fixe. Ouais.
C'est ça, donc avec la nouvelle salle qui arrive.
Voilà, ouais.
Okay.
Et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Qu'un ouais. Club comme ça, qui est un peu, on va dire, pignon sur rue,
c'est ça.
N'avait pas eu une salle.
Il me semble avoir fait une pige pour Ouest France et l'UFAB jouait, donc l'équipe 2, donc, qui jouait un N3 à l'époque, et jouait effectivement à mon plaisir. Alors, j'ai plus en tête le nom de la salle, mais une salle basique qu'on peut retrouver pour des sports amateurs, effectivement.
Oui,
donc.
Ouais,
ça va être un peu mieux, je crois.
Je vais lancer un appel. On ne sait jamais, mais si quelqu'un de la mairie qui travaillerait au service responsable un peu des équipements sportifs serait intéressé pour venir en parler de ce phénomène qu'on a de plus en plus avec différents clubs qui ont de plus en plus de mal à trouver une salle ou un lieu pour s'entraîner. Bah voilà, ce serait un sujet, je pense, intéressant.
Ouais, mais justement, la nouvelle salle Mon Plaisir va être très intéressante.
Ouais.
Parce que justement, les Loups d'Angers aussi, le club de tennis phare, hein, va aussi rejoindre cette salle à Mon Plaisir et va quitter Jean Moulin où c'était un petit peu pareil, un peu ancien.
Donc voilà, en tout cas, voilà, on va dire pour un peu la fin de saison et un petit peu les projets externes. Donc ensuite, il y a eu la partie développement sur les départs, arrivées et un petit peu les ambitions pour la saison. Et puis, il y a eu le dernier bloc qu'on ne va pas évoquer, puisque pour cause de CSA, on ne va pas citer le nouveau partenaire. Mais en tout cas, c'est une entreprise du Lion d'Angers qui est dans la viande.
Ok.
Je pense voilà, il y a assez d'indices. Mais voilà, du coup, qui s'est engagé pour plusieurs années à être en partenariat. Donc toujours ça de prix, surtout que voilà, les budgets, c'est toujours compliqué de les tenir. Et puis forcément, avec la belle saison qui attend le club, il y a l'Europe. Mm-hmm. Ça va engendrer forcément des coûts. Il y a la saison régulière aussi. Donc voilà. Donc au niveau sportif, on va dire deux temps. Forcément, on a évoqué les départs. Donc il y a trois cas, enfin il y a trois joueuses qui partent, voilà, parce que il leur faut du temps de jeu, il faut qu'elles puissent se développer aussi. C'est souvent des jeunes joueuses. Mm-hmm. Donc on a Jade qu'on avait reçue.
Jade Gaillard.
Adèle Dreano.
Oui.
Et
Flora Eyman,
voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est pas, il y a pas de souci avec le club, elles partent en bon terme. Mmh. Le club est ravi du travail qui a été effectué sur toutes ces années qu'elles y sont, voilà. Donc là, on savait pas, et j'ai regardé pour l'instant, on sait toujours pas vers quel club elles vont. Apparemment, pour Jade et Adèle,
c'est signé.
Il y a plus que l'officialisation de la part du club où elles vont.
C'est ça.
Donc voilà.
Pour Flora et Manuel.
Et Flora, c'était en attente de recherche.
Ouais, donc pour les jeunes, effectivement, c'est cool qu'elles puissent avoir du temps de jeu. C'est dans la continuité de leur progression.
C'est ça, voilà.
Et puis, tu en parlais, effectivement, c'est très important de dire que le centre de formation est très performant dans le sens où l'équipe 2 qui est en tout cas, les espoirs sont en N2, qu'elles ont fait une saison incroyable et que, donc, elles ont failli être promues en N1, qu'elles ont terminé 3e du Final Four. Et c'est grâce, notamment, à Jade Gaillard, Flora Eyman. Alors, Adriano Trecan, je crois qu'elle est encore un peu plus vieille, mais en tout cas Gaillard et Eman ont pu se montrer et montrer tout leur potentiel dans cette compétition, en plus de grappiller des minutes de temps de jeu dans l'équipe professionnelle.
C'est ça, c'est un petit peu le parcours initiatique.
Bien sûr.
Tu quittes ton petit nid pour.
C'est ça.
Pour t'émanciper du club aussi.
Sûrement des clubs en Ligue 2 d'ailleurs, hein, en LF2, je pense.
On a eu aucun mot là-dessus.
Oui, dans ce qu'on peut imaginer,
je pense
une des joueuses de rotation en Ligue 2 pour commencer peut-être.
Voilà, peut-être.
La LFB justement sera peut-être un peu trop. En fait, ce serait même dans le même truc.
Oui, est-ce qu'elle jouerait
le même projet qu'à l'UFAB, donc ce serait pas changé quoi.
Ça ferait peut-être un style d'entraînement de méthodes différentes, mais effectivement, le temps de jeu serait peut-être
le même
si elles étaient restées à Angers.
En tout cas, c'est Ouest France qui avait titré ça début avril. Le club de Montbrisson s'intéresserait à Carla Brémaud et à Jade Gaillard.
Ok.
Donc, il me semble que ça joue la D2, Montbrisson.
C'est ça. Ouais.
Donc voilà, peut-être que c'est une exclue. On s'avance pas, mais voilà, c'est peut-être ça.
Dans les départs, il y avait donc Richardson qui était joker médical. Alors le club a été très satisfait de son attitude parce que c'est vrai qu'elle est venue en joueuse, voilà, de.
Elle est venue au pied levé.
De supplément, voilà. Ils auraient pu la garder s'ils voulaient, mais c'est très compliqué et on en reparlera après. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive, mm-hmm. et il y a des quotas en Coupe d'Europe. On peut pas forcément avoir tant d'Américains, et forcément avec l'effectif qu'il y a déjà, il y a déjà deux Américaines qui sont titulaires, indiscutablement, qui ont leur place.
Oui, dans le 5 majeur.
Voilà, dans le 5 majeur. Et donc là, ça aurait pu poser problème.
Ouais, bien sûr.
Après, il n'y avait pas eu de promesse de continuité. Ils ont apprécié le fait que, voilà, elle est venue, que forcément, bah, quand tu arrives dans cette équipe-là, il fallait s'intégrer. Elle aurait pu très bien s'isoler. Et non, il y a eu une très bonne intégration, il y a eu un très bon travail de sa part. Donc, ils sont quand même très satisfaits de ce joker médical. Ouais. Quoi.
Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exclu, comme départ ?
Comme départ, bah on a
Odé Rachidom qu'on a reçu aussi dans l'émission.
Et qui part pas toute seule aussi.
Oui.
Qui part avec Ivana.
Enfin, Iva.
Iva, oui.
Iva Jean-Zac.
Voilà.
Donc encore une fois, une invitée de Génération Sport.
Elles partent ensemble au Hainaut.
Ok, donc
c'est un retour.
Même club.
Voilà, c'est un retour du coup.
Ah oui, c'est vrai que Yvan Jean-Jacques venait de Saint-Amand.
Voilà, c'est Saint-Amand, le Hainaut.
Donc, dans le nord de la France.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un retour. Elle veut qu'en fait, c'est une décision qui s'est faite très vite, puisque le club n'avait pas encore entamé de discussion. Que c'était déjà dans sa tête, en tout cas,
de revenir là-bas.
De partir. Et ça s'est fait naturellement, du coup ils ont pas eu besoin de chercher à discuter, donc elle retourne du coup dans son ancien club et voilà quoi. Donc
sur le départ,
et voilà, donc pour Odera, c'est le petit problème avec la avec la Coupe d'Europe, avec les histoires de bi-nationalité, comme elle a une nationalité
nigériane
et américaine.
Oui.
Du coup, forcément, pour la Coupe d'Europe, ça aurait été problématique. Ça aurait été très compliqué de la garder dans le groupe et, ouais. Et sur un terme de projet, c'est toujours délicat de dire toi tu vas pas jouer l'Europe parce que voilà, elle aurait pu jouer en championnat sans problème, mais pas en Europe ou.
Oui, et justement le Nigeria, donc on parlait parce qu'elle a une grosse expérience internationale avec le Nigeria. Elles se sont qualifiées pour le Mondial 2022, donc en Australie. Elle avait joué aussi notamment les Jeux Olympiques. Et en fait, le Nigeria finalement ne participera pas au Mondial 2022. Donc grosse désillusion évidemment, on l'imagine pour Odi Rashidom. Donc voilà, en fait, c'est une décision de la FIBA hein, qui a décidé de retirer donc la Fédération nigérienne de basket de toutes les compétitions internationales pour la durée de 2 ans. Et c'est le Mali de Touti Gandeya qui sera donc le remplaçant du Nigeria. Et donc voilà un peu pour les infos. Ça va être, à mon avis, une grosse déception pour elle.
C'est là qu'on se dit que c'est très compliqué le basket africain, en tout cas.
Ouais, il y a pas mal
voilà, on l'avait évoqué plusieurs fois cette année. C'est vrai qu'entre les soucis de paiement, enfin des choses comme ça,
oui, effectivement.
Des litiges, des fois sur des matchs. Enfin, c'est vrai que ça doit bien, surtout au vu de la saison qu'elle a fait, de se voir retirer un peu comme ça sur tapis vert, une qualification,
C'est dommage.
En tout cas, c'est vrai que dans cette optique-là, c'était un bon choix aussi, du coup, de rester en France, parce que ça a été souligné pendant la conférence. C'est vrai que le championnat de France féminin a quand même un niveau assez élevé, et ça se ressent en Europe. Du coup, on est vis-à-vis des autres championnats, on serait largement dessus.
Oui, bien sûr.
Donc c'est bien que ces joueuses-là, finalement, elles restent dans notre championnat.
Oui.
Donc, voilà. Donc là, c'était vraiment les départs. Voilà. Donc, normalement, il n'y aura pas d'autres surprises.
Tant mieux.
Tant mieux, oui, j'ai envie de dire. Pour l'instant, deux arrivées.
Oui.
Une arrivée, on va dire, très ambitieuse pour le club. Puisque.
Leila Lacan.
Lacan,
oui. Lacan, je pense que ça se prononce Lacan.
Peut-être quand on la recevra.
On lui demandera.
On lui demandera, mais en tout cas, voilà, c'est. Comme le signait son futur entraîneur, c'est une joueuse qui a un très très gros potentiel, formée par la cellule du centre fédéral, qui fait déjà partie du projet JO 2024. J'ai regardé un peu ses stats, je sais pas si t'avais été voir un peu.
J'avais un peu regardé, en tout cas j'avais
quand même des stats impressionnantes, j'ai trouvé.
J'avais des articles qui disaient que c'était vraiment un des gros espoirs. Même dans la conférence de presse, en fait, pour tout dire, t'as enregistré ce qu'il disait. Et donc effectivement, David Gauthier en parlait comme une des meilleures de sa génération. Et il était très satisfait du fait que l'UFAB est capable d'attirer un si fort potentiel, donc ça va être très intéressant pour la suite.
Ouais, et puis je pense ce qu'il soulignait aussi, c'est qu'elle va arriver, elle va avoir une très très grosse pression du coup forcément. Alors pas forcément vis-à-vis du club, mais vis-à-vis de ses objectifs forcément.
Personnel.
Équipe de France.
Et une belle concurrence à son poste aussi.
Et voilà, c'est ça. Et lui, ce qu'il expliquait, c'est que ils vont essayer en tout cas d'adoucir cette pression. Et qu'elle puisse apprendre en étant peut-être deuxième joueuse sur ce poste-là. Mais en tout cas, qu'elle puisse continuer de s'améliorer et de participer au groupe. Forcément, avec la Coupe d'Europe, c'est pas forcément la joueuse qui connaît le niveau européen, en tout cas en club, mais qui connaît le niveau international. Ça pourra faire peut-être un petit plus auprès des jeunes joueuses aussi, de l'UFAM. Donc c'est vrai que c'est d'un point de vue image du club, c'est très joli, effectivement, d'attirer une joueuse comme ça. Puis même, je pense que dans le jeu...
Et puis si ça marche, ça peut être très intéressant d'avoir...
C'est ça, ouais, ça va amener un plus.
Si elle explose vraiment cette année, ça peut être vraiment un gros coup de lumière sur le club de l'UFAB.
Et on a notre nouvelle recrue qui a déjà joué l'Europe avec son ancien club. Dans les premières déclarations qu'elle a faites, elle nous disait qu'elle était très heureuse de rejoindre le club d'Angers, C'est Ivana Jokukovka.
Un nom compliqué à prononcer.
En tout cas, voilà. Donc, ouais, elle a déjà joué la Coupe d'Europe. Elle a déjà affronté les clubs français en Coupe d'Europe. Elle a éliminé, je crois que c'était en 8e ou cette année, un club français, voilà, okay, qui était dans le top 4 tout au long du championnat. Donc, non, bah voilà, c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'elle a connu la sélection récemment. Apparemment, il a
suivi. En Slovaquie, on peut le dire. En Slovaquie.
En Slovaquie, voilà.
On peut le dire.
Elle a évolué depuis. Apparemment, elle était déjà suivie depuis longtemps. Il y avait déjà eu des échanges faits. Et elle arrive, oui, avec une ambition, bah, forcément, de jouer un petit peu dans le meilleur championnat et de continuer sa progression. Et c'est vrai que ça va être une des trois joueuses qui ont déjà connu l'Europe. Donc ça va être un atout
indispensable. Ouais, on peut dire que donc elle jouera au poste 5. Donc numériquement, elle devrait remplacer.
Je crois que c'est pas une vraie 5. Okay. En tout cas, en termes de poste pour poste.
Elle remplace pas Hachidom,
du coup. Elle va la remplacer, je crois, du coup. Mais je crois que de base, c'est en tout cas sur le marché des transferts, elle n'est pas considérée comme une comme numéro 5. Parce qu'apparemment, le poste de numéro 5 féminin est très très dur de.
L'UFAB, en tout cas, lui attribue le poste 5. Et donc, elle vient de Pologne, de Lublin. Donc voilà, Ivana Jakubkova. Donc, un nom à sauvegarder dans sa mémoire.
Mais voilà, donc. Au niveau des ambitions, c'est ce que rappelait le président, c'est que les joueuses, forcément, elles vont avoir envie de jouer tous les matchs. Elles préfèrent jouer deux matchs d'affilée que de faire un match et des entraînements. Mais ce qu'il expliquait, c'est qu'il ne faudra pas oublier de garder en tête que c'est fort probable que l'objectif, ce sera quand même le championnat en priorité. Mm-hmm. Donc, il va y avoir tout un parcours un peu à mettre en place pour équilibrer tout ça, parce que ça va aller très vite. Hein. Ça a commencé peut-être vers le mois d'octobre, le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe. C'est 6 poules de 4. Enfin, en tout cas, ça va aller très vite dans les matchs.
Ouais.
Ça peut continuer. Dans le temps, le tirage est un peu aléatoire parce qu'on peut tomber sur des équipes qui sont tout proches, mais tomber dans une poule élevée, mais d'avoir une poule un peu plus faible, mais d'aller jouer très très loin. Donc il va avoir tous ces facteurs-là à gérer, il va forcément avoir les rotations des joueuses à gérer. Il y a aussi forcément, en termes de budget, il y a peut-être encore une joueuse qui devrait arriver. En tout cas, c'était le souhait ce vendredi. Donc, je pense que en tout cas, s'il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé, je pense que le maintien et sûrement rejouer les playoffs va être un peu l'objectif principal du club. Et puis, je pense que la Coupe d'Europe va peut-être être un peu en mode pépinière pour que les joueuses puissent se développer et prendre de l'expérience. Mm-hmm. Il y a eu aussi un mot sur les trois ou quatre joueuses qui ont signé un contrat qui était déjà dans l'équipe.
Ouais.
Donc y avait de la motivation, donc ils n'ont pas forcément eu trop à discuter. Il y a même des joueuses qui auraient pu partir dans d'autres clubs et avoir un salaire beaucoup plus élevé là-dessus. Enfin, il n'y a pas eu de soucis, en tout cas. On aurait pu croire qu'il y avait peut-être des soucis au vu des nombreux départs, mais non, tout est OK de ce point de vue-là. Il y a toujours une bonne ambiance et puis on va attendre le début de la reprise.
Ouais, on attendra ça avec impatience. Merci Cédric d'avoir été te déplacer là-bas, jusque là-bas, pour suivre cette conférence de presse et puis pour ton retour sur les différentes infos. On va enchaîner puisque le temps presse. Je vais me tourner vers Faustin qui va nous donc parler encore une fois de basket avec la Betclic Elite et donc tout ce qui s'est passé. Et un club local aussi qui a brillé. On en a parlé ici à Général. Son sport, donc Cholet Basket notamment.
Les anciens pitch.
je vais en parler justement. Ils se sont fait malheureusement éliminer des premiers tours de ces playoffs face à Lyon-Villeurbanne. Donc Macron, il va plus porter sur la finale qui va opposer donc Lyon-Villeurbanne à Monaco. Il faut savoir que les playoffs LNB, c'est un peu différent que ceux de la NBA dont j'avais parlé la semaine dernière. Parce que déjà, il n'y a que 3 tours, contrairement aux 4 de la NBA. Le premier tour se joue au meilleur des 3 matchs. Et les demi-finales et finales se jouent, eux, au meilleur des 5 matchs. Là, c'est une affiche assez attendue qu'on a cette année entre ces deux équipes qui ont fini premier pour Lyon-Villeurbanne avec un bilan de 26 victoires pour 8 défaites et deuxième pour Monaco avec un bilan de 25 victoires pour 9 défaites. Au premier tour, comme je le disais, l'ASVEL l'a emporté non sans souci face à Cholet, car ils ont perdu le premier match à domicile, mais ils s'en sont finalement imposés pour le premier match à la Mairet, donc à l'extérieur, puis ils ont terminé le travail à domicile. C'était un très beau parcours qu'ont fait les Choletais, notamment en prenant ce premier match à Lyon, ce qui était très inattendu, et un Johan Makoundou, donc on pourra peut-être parler dans les meilleurs espoirs, qui a été très performant et qui a donc été sélectionné pour jouer en équipe de France. Après ça, Lyon a dû affronter Dijon, qui s'était débarrassé 2-0 du CSP de Limoges. Ce sera une série très peu disputée, car l'ASVEL s'en sortira facilement 3-0, ce qui était là aussi attendu. Ils l'ont vraiment roulé dessus, j'ai envie de dire. Du côté monégasque, le parcours est assez semblable, car ils ont, de la même manière que l'ASVEL, ils ont perdu le premier match lors du premier tour face à Strasbourg, mais ils ont ensuite remporté les deux suivants et ont remporté la série 2-1. Ils sont ensuite joués contre Pau, qui avait gagné eux contre Boulogne-Levallois 2-0, alors que c'était pas du tout si attendu. On attendait plus l'inverse avec Boulogne-Levallois qui avait sorti une très bonne saison, l'équipe de Vincent Collet. Ils sont sortis 3-1, là aussi une série assez peu disputée, largement dominée par Monaco, qui avait remporté les deux premiers matchs à domicile, avait perdu le suivant à l'extérieur et avait fini le travail à l'extérieur en remportant ce troisième match. Cette finale, c'est, comme je le disais, une finale attendue au vu de la saison régulière et qui risque de ne pas décevoir. Les deux équipes ont toutes les deux quelque chose à prouver, car je ne l'ai pas dit, mais c'est le remake de la finale de la saison dernière, où la saison dernière, c'est l'ASVEL qui l'avait emporté. Monaco a donc soif de vengeance après notamment cette élimination en Euroleague aux portes du Final Four. Et les Lyonnais, quant à eux, veulent montrer qu'ils sont capables de réaliser ce back-to-back malgré eux une élimination un peu prématurée en Euroleague. Dans cette finale, on aura un gros duel des meneurs entre Eli Okobo, le meneur de l'ASVEL qui a été passé par les Phoenix Suns en NBA, et Mike James, le meneur de Monaco qui lui était passé par les Brooklyn Nets en NBA.
Voilà. Eh bien, merci donc pour cette chronique sur les playoffs de BetClic Elite. Effectivement, sur aussi cette finale donc de LNB. Il y a un gros programme basket donc dans les jours à venir. On va profiter de la fin d'émission pour vous parler des générations d'or. Hein, cette première édition qui va permettre d'élire le meilleur sportif masculin, la meilleure sportive féminine, le meilleur entraîneur, le meilleur espoir et le meilleur club d'Angers. On va commencer donc par un petit débat. On va déjà présenter aussi les nominés, un peu ce qu'ils ont fait pendant l'année. Je propose de commencer par le sportif masculin. Si on a le temps, on fera la sportive féminine. Mais effectivement, là, on termine dans 10 minutes, donc ça va être compliqué. Donc, sont nommés donc dans la catégorie du meilleur sportif masculin, Mohamed Ali, le gardien égyptien d'Angers Square Handball, Robin Gabory des Ducs d'Angers, João Geraldo, le portugais des Loups d'Angers, Théo Moreau, le cycliste jusqu'au cyclisme. Et puis Akemji Williams, le meneur américain de l'Étoile Angers Basket. Messieurs, parmi donc cette liste des cinq nommés, quel est votre favori, peut-être un coup de cœur? Après, évidemment, il y a aussi le vote des auditeurs, hein, qui va trancher. Pour vous, qui paraît favori sur ce premier première catégorie?
Moi, de mon point de vue, je pense que Robin Gabory sort un peu du lot. Moi, si j'avais pu voter, c'est le choix que j'aurais fait. En tant que capitaine des Ducs, et vu la saison des Ducs, il a une place hyper importante dans cette réussite. Donc,
un but très important,
ouais,
en finale.
Ouais,
un
but décisif en finale, ouais.
Donc ouais, voilà. Après, Robin Gabory, comme je disais, je pense que, et évidemment, le hockey est un sport collectif qui justement n'est pas là pour faire primer les individualités, mais voilà, s'il gagne cette récompense, c'est vraiment pour primer les Ducs, parce que c'est vrai que voilà, on a l'exemple du gardien du SCO Handball, qui le SCO Handball collectivement n'a pas fait une grande saison, mais individuellement parlant, lui, il a été excellent. Donc voilà, ça va être des choix à faire, mais voilà, j'aurais voté pour Gabory et Akemji Williams aussi, qu'on a reçu il y a pas longtemps dans l'émission, mais sinon tous les cinq méritent d'être nommés, ouais, sans souci.
Tu parlais de Mohamed Ali, effectivement, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, puisque effectivement Angers SCO Handball a fait une saison plus que compliquée avec cette relégation en N1. Mohamed Ali est, en termes de pourcentage d'arrêt, le quatrième meilleur gardien de Pro League, donc la deuxième division nationale. Donc c'est pour situer un petit peu le niveau qu'il a pu afficher tout au long de la saison. C'était, je pense, la plus grosse recrue du club à l'intersaison dernière, avec donc un joueur qui a de l'expérience internationale, qui a joué les JO également, et qui a prouvé qu'il était capable d'être décisif dans certains matchs. Malheureusement, il y a une défense qui a été généralement trop peu décisive, donc voilà, il a quand même sauvé certaines fois le SCO, mais malheureusement ça ne l'a pas fait, et ça a été officialisé aujourd'hui ou hier, mais en tout cas il va quitter le club d'Angers. Donc voilà, pour décrire un petit peu son parcours et ce qu'il a fait cette saison du côté du SCO Handball.
Tu sais un peu pourquoi il quitte, ou...
La raison la plus probable, c'est qu'évidemment
je
le club
est
descend.
Il y a le salaire qui devait aussi, ouais, du coup il jouait.
Le salaire, je sais pas ce que le SCO propose, mais en tout cas, le descendre, je pense que pour un joueur qui prétend à mieux,
oui, voilà,
je pense que
il y a forcément eu des clubs qui sont positionnés, des projets plus intéressants.
En National 1, je pense que ça l'intéresse pas. Il aurait peut-être pu rester si le SCO s'était maintenu, peut-être, mais en tout cas effectivement en N1, je pense que en tout cas de mon point de vue, c'est pas un gardien qui a sa place en National 1. Il a sa place en Pro League, dans un club majeur, et même pourquoi pas dans un bon club de l'Iki Moly Star League, ce nom toujours qui me donne des boutons. Donc voilà, Mohamed Ali pour décrire un peu sa saison. Pour parler un peu des autres, après je vous laisserai vous exprimer, les gars. Donc on a, parmi ceux qui sont les moins connus, on a Joao Gerardo, donc des Loups d'Angers. On peut préciser que les Loups d'Angers jouent ce soir même leur titre de champion de France. Alors, ils sont en ballotage défavorable. Il faudrait une victoire de la Romagne contre Caen, puis une victoire évidemment des Loups d'Angers pour qu'ils soient champions de France. Mais en tout cas, une saison incroyable pour les Loups d'Angers, et Joao Gerardo qui a fait vraiment une saison incroyable. Beaucoup de victoires, qui a été décisif tout au long de la saison. Donc voilà pour sa saison. Et puis Théo Moreau, également moins connu, qui a gagné la médaille d'or en contre-la-montre lors des Deaflympics, hein, les Olympiades pour les personnes sourdes. Et donc voilà, Théo Moreau du SCO cyclisme, qui fait aussi un petit peu de triathlon, et donc voilà, une médaille d'or méritée. Donc on voulait aussi mettre un handisportif dans ces nominés, et Akemji Williams, qu'on ne présente plus, qui est venu dans l'émission, qui a fait une saison incroyable avec le AB promu en Pro B. Cédric, toi, quel est ton favori? J'imagine que ça doit être le même que...
Je rejoins ce que Max a dit, voilà. Pour moi, c'est Gabory qui est pas au-dessus de tout le monde, mais en tout cas, au vu de la folle saison des Ducs, il le mérite, quoi.
Il a été décisif, surtout en finale.
Il a été décisif en finale, enfin, mais capitaine exemplaire tout au long de la saison. Ouais. Après, c'est vrai que... toujours délicat d'en élire un, mais en tout cas, c'est peut-être celui aussi qui me parle le plus.
Bien sûr.
Pour sa performance.
Toi, Faustin ?
Moi, pour être différent, je vais dire Hakeem J. Williams.
Un basketteur, forcément.
C'est vrai que quand j'ai vu les nominés, j'ai forcément hésité avec Romain Gabory, parce que déjà, collectivement, c'est les deux équipes qui ont fait la meilleure saison.
Bien sûr.
Après, je me dis que pour venir sur le point collectif, justement, c'est le AB était plus attendu comme un outsider et ils ont réussi à prouver quelque chose là où on ne les attendait pas forcément. Puis fini meilleur marqueur de la saison, je crois.
Oui.
Donc je mettrai plus mon vote sur lui, moi.
D'accord. On peut aussi signaler, on peut parler des absents notamment. On avait hésité parce que donc nous sommes ceux qui vont décider des nominés. On avait pensé à Sofiane Boufal. Évidemment du SCO. Après, c'est vrai que le SCO a fait une saison compliquée. Il a marqué 8 buts, donc c'est une très bonne saison. Mais effectivement, par rapport à d'autres enjoints qui ont brillé, on s'est dit que c'était aussi bien de parler d'autre chose que de football. Et puis, il y a également Matteo Boeas, qu'on aura pu citer, qui a récemment été champion de France en individuel. Donc voilà, pareil, encore un indice sportif qui a brillé aussi. Mais voilà, en tout cas, on a voulu aussi un peu de disparité dans les sports.
Oui, c'est ça. Bah, comme tu le dis, c'était très important pour nous d'être équilibré et de représenter aussi bien le sport masculin que le sport féminin que le handisport, puisque il n'y a pas que le foot masculin qui existe, bien évidemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait autant de catégories. Et comme tu as dit, on a essayé d'impliquer au maximum des handisportifs parce qu'et au vu de leur saison, ils méritent pleinement d'être en compétition avec des sportifs valides. Donc voilà, c'était important pour nous d'avoir une certaine parité et on vous invite une fois de plus à rejoindre les réseaux sociaux de Génération Sport pour voter. Le vote il se terminera dans combien de temps, Alex?
Est-ce qu'il y a le 3 juillet, j'ai mis le 3 juillet parce que du coup l'émission sera le 5.
Ouais.
Donc on essaiera aussi d'avoir les réactions
un petit peu,
c'est ça, on récoltera les votes et puis on essaiera d'avoir les réactions des vainqueurs et puis voilà, on verra ça. Donc on vous incite donc à voter et à partager, c'est ça, c'est le mot. Partager ce sondage pour qu'il y ait un maximum, c'est ça, pour qu'il y ait un maximum de votes et puis qu'on ait des vrais avis autour de ça. On vous quitte donc avec le générique et puis on vous laisse en compagnie d'Imaginaire.
Bonne soirée à tous.